Qu'est-ce qui fait que vous en êtes parti de Baker & McKenzie 7 ans plus tard?
Bah, je crois que ça revient peut-être un petit peu à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est l'envie d'entreprendre, tout simplement. Je crois que j'aurais pu rester chez Baker, je serais pas allé dans un autre cabinet du même style. Je me sentais très bien là-bas, je vais pas... Non. Là, c'est envie de créer quelque chose. Le droit en lui-même, que j'adore, et que j'adorais et que j'adore toujours, ne m'était peut-être pas suffisant. J'avais aussi l'envie d'entreprendre, voilà.
Je sais pas si les avocats, c'est pas une question que je pose et que je devrais la poser, mais je sais pas si les avocats dans ces structures ont l'impression d'entreprendre, même quand ils développent une clientèle avec et pour le cabinet. Vous aviez en tout cas, à titre personnel, pas l'impression que les marges de développement que vous pouviez avoir en évoluant chez Baker & McKenzie répondaient à votre notion de l'entrepreneuriat à vous?
Oui, non, je ne le pensais pas. C'était peut-être d'ailleurs une erreur, hein, parce que je connais des avocats qui étaient de ma génération, qui sont restés, qui malgré tout ont réussi à en tant que partenaire et à développer une clientèle. Donc j'aurais peut-être pu le faire, mais oui, à cette époque-là, j'avais envie d'autre chose. Puis peut-être qu'aussi, au fond de moi, j'avais quand même une envie de changement. C'était ma seule expérience. J'avais pas goûté à un autre cabinet avant ni après, puisqu'après oui, mais de façon différente. Voilà, mais je pense oui, d'un point de vue de la notion d'entreprendre, j'avais un manque.
Donc vous partez pour vous installer ?
En fait, au départ, je pense le faire en deux étapes. Et la première, c'est plutôt d'intégrer une plus petite structure pour un peu revenir, vous savez, dans les grosses structures, on est tellement avec des gros clients, très internationaux, etc. Peut-être je me disais que ça, c'est pas la meilleure des façons de se projeter. Donc je me voyais plutôt intégrer une petite structure et puis dans laquelle j'aurais pu me développer, etc. Bon, le problème, c'est que ça n'a pas été simple. Parce que lorsque vous sortez d'une grande structure avec les niveaux de rémunération que l'on avait intégrés, puis à l'époque, il y avait une plus grosse différence entre les... Enfin, j'appelle une grosse structure qui aujourd'hui ne serait pas très grosse, d'ailleurs. Bref. Donc, ça n'a pas été simple. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé, j'ai rencontré un cabinet qui m'a proposé un espèce de format de collaboration, un peu de troc, en d'autres termes, me mettant à disposition les moyens, en contrepartie desquels j'allais collaborer sur leur dossier et apporter mon savoir-faire, mon expérience dans ma matière notamment, et puis me permettant donc en parallèle de développer mon activité. Voilà comment cela s'est fait.
Donc un troc avec, quand vous dites, ils mettent à disposition les moyens, c'est-à-dire bureau, salle de réunion, tout ça.
Oui, tout à fait.
Photocopieur, assistant, assistante, voilà.
Oui, tous les moyens matériels.
Ouais. Et je crois que ça n'existe plus. Je crois que c'est plus possible de faire ça du pur rapport en nature contre contribution professionnelle.
Oui, enfin.
Non, mais c'est intéressant.
Ouais, non, d'un point de vue déontologique, peut-être effectivement. Enfin, même, il y a à redire. Après, si vous voulez, c'était un petit peu des accords. D'ailleurs, on n'avait pas d'accord écrit. Hein, tout ça, c'était fait oralement. Il y avait une communauté d'intérêts. D'ailleurs, ça a été utile pour moi parce que.
Oui, j'allais vous demander comment ça s'est passé pour vous.
Oui, ça permet de mettre. Vous savez que quand on parle justement d'entreprendre, il y a quand même l'aspect financier, c'est-à-dire que vous vous retrouvez sans aucune garantie de revenus. Bon, ça, ok, on l'assume, mais il y a les charges. Donc, si vous n'avez pas de garantie de revenus, mais avec des charges fixes qui, même si on peut les limiter au maximum, existent, là, l'avantage, c'est que ça permettait de démarrer sans quasiment aucune charge.
Oui, puis il faut aussi se remettre. Aujourd'hui, on peut avoir des charges fixes extrêmement réduites parce que globalement, avec un ordinateur et une domiciliation et une adresse professionnelle, on travaille. Et Internet, on travaille. À l'époque, c'était peut-être pas aussi...
Vous avez tout à fait raison. Alors, on avait quand même déjà l'outil informatique, mais il y avait pas Internet où c'était au tout... Oui, non. Parce que moi, je démarre en 95 et... Non, c'est vrai. Et puis, effectivement, on n'avait pas... Les méthodes de travail étaient différentes et on avait besoin de plus de matériel que ce que l'on peut par rapport à ce que l'on peut faire aujourd'hui.
Et vous dites donc que ce deal, globalement, vous vous y êtes retrouvé. Vous avez comment s'est passé votre développement de clientèle? Comment vous vous y êtes pris? Comment c'est venu? Est-ce que ça a pris longtemps? Tout ça.
Oh, il y a beaucoup de choses qui se font un petit peu. Je pense qu'il faut se lancer. Si on ne se lance pas, en fait, ça ne se fera jamais parce qu'on n'a aucune certitude. Moi, je suis parti sans aucune certitude, mais il s'est avéré que je suis parti avec deux dossiers de chez Baker McKenzie, bien évidemment avec l'accord du cabinet, tout simplement, parce que j'avais une très forte implication sur ces deux dossiers qui étaient des contentieux importants et donc qui m'ont amené un petit fond de roulement. Et puis le reste, écoutez, c'est venu par le bouche à oreille. Je peux pas vous dire que j'avais une véritable stratégie de développement de communication très développée. Et puis ça s'est fait petit à petit. Et puis ça fonctionne.
non, mais c'est vrai. Plus sérieusement, vos clients, qu'est-ce qui s'est dessiné comme contour de clientèle? Sur quoi est-ce qu'on vous a consulté? Comment s'est structuré votre activité, le début, peut-être les évolutions entre les débuts et aujourd'hui, tout ça m'intéresse.
Je crois que c'est vraiment une question de, c'est une question de personne, c'est-à-dire qu'on fait des rencontres et puis on a des clients, ça peut être aussi par des confrères, par tout le réseau professionnel que l'on peut avoir, ça fait boule de neige. Un client qui est satisfait vous en amène un autre. Moi à l'époque, j'essayais d'écrire, j'écrivais, on avait accès, encore une fois, effectivement, on n'avait pas internet, donc on écrivait dans les journaux papier. Il y avait les Échos déjà qui ouvraient aux avocats, aux juristes une page et on pouvait écrire. Et voilà, j'écrivais, je faisais un petit peu de doctrine. Moi j'essayais de me développer donc dans ma matière, et donc il venait de s'ouvrir le dictionnaire permanent droit du sport, et je m'étais occupé toute la partie droit de la concurrence, etc. Donc bon, ouais, je me bougeais, puis voilà, et les clients arrivaient comme cela. Après, la particularité un petit peu de mon cas personnel, c'est que les gens avec qui j'ai commencé à collaborer sous la forme que je vous expliquais, on s'est associés assez rapidement, au bout de 18 mois. Et ça a été ma première expérience d'association, qui s'est pas très bien terminée, mais qui a quand même eu le mérite, là, d'exister, de me mettre le deuxième pied à l'étrier. Et puis, là, grâce à cette association, ça a commencé à prendre de l'envergure. Et association donc a duré jusqu'à fin 99, 2000, et où là 2000 je refais un nouveau redémarrage, cette fois-ci seul, voilà.
Ouais, et vous dites le fait de vous associer, ça a un peu soufflé sur votre développement, quoi, c'est-à-dire ça vous a porté, vous avez vu une différence en termes de développement à partir de l'association. Est-ce que c'était lié à l'apport de dossiers qui était fait par le cabinet stricto sensu? Ou est-ce que c'est tout simplement, d'un point de vue peut-être de l'image, le fait d'être associé d'un cabinet, et voilà, ça qui, on va dire, a contribué à meilleure attractivité de qui vous étiez, à, voilà. Quel est votre regard là-dessus?
Un peu les deux. Je pense qu'effectivement, tout d'abord, la synergie, le fait du travail en groupe. Je sais qu'il y a des confrères qui sont seuls, qui restent seuls et qui sont très bien. Et donc, je suis très respectueux de cela. Moi, personnellement, j'aime le travail en groupe, et je pense qu'effectivement, pour le développement, c'est quand même plus facile. Il y a un phénomène de groupe qui permet quand même de développer. Ça, c'est déjà en tant que tel. Et puis, le deuxième aspect, la notion d'attractivité du cabinet, c'est sûr qu'à partir du moment où il y a une structure, que vous n'êtes pas tout seul, puis un problème aussi de compétences à ajouter à cela, c'est-à-dire que c'était déjà le cas avant, ça l'est encore plus aujourd'hui. Pour couvrir, je dirais, largement des secteurs du droit, c'est quand même aujourd'hui de plus en plus compliqué. Ça l'était déjà encore une fois avant. Donc, lorsqu'on est plusieurs, ça nous permet aussi d'avoir un champ d'investigation quand même plus large sur les matières du droit. Encore là, nous parlons que du droit des affaires, mais déjà entre celui qui va vous dire que c'est un bon fiscaliste qui fait du droit du travail, etc., et du droit d'une société, et puis du contentieux. Bon, certains le font, bien évidemment, et avec succès, si le débat n'est pas là. Mais oui, je pense. Enfin, moi, j'ai toujours aimé le travail en groupe. Oui.